Euradio présente Europe in a Soundbite, l'Europe du laboratoire à la classe.
Euradio présente Europe in a Soundbite.
Bonjour à tous, aujourd'hui dans Europe in a Soundbite, nous allons nous intéresser au rôle des compagnies maritimes transatlantiques dans les relations euro-américaines.
Quel était le rôle des grandes compagnies maritimes transatlantiques ?
À partir du milieu du 19e siècle jusqu'aux années 1950, des lignes régulières de paquebots transatlantiques assuraient la liaison entre les ports européens et américains, en particulier au départ du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, à destination des États-Unis. La mer était alors le seul moyen de voyager d'un continent à un autre, et ces navires étaient donc des acteurs essentiels des échanges internationaux, permettant à la fois le transport de courriers, de migrants, de voyageurs d'affaires et d'agréments. Ce rôle ne diminua qu'avec l'apparition des premiers vols transatlantiques réguliers après la Seconde Guerre mondiale, et les derniers paquebots transatlantiques disparurent dans les années 1970.
Quel pays dominait ces échanges ?
Tout au long du 19e siècle, la marine marchande britannique fut le principal acteur sur la ligne transatlantique. À partir des années 1870, la ligne fut notamment dominée par les compagnies White Star et Cunard Line qui mettent au service des navires toujours plus grands et rapides. À partir de 1897, deux entreprises allemandes, la Nordöster Lloyd et la Hapag, firent leur entrée sur l'Atlantique Nord sous l'impulsion du Kaiser Guillaume II, qui voulait doter son pays d'une marine puissante à usage à la fois civil et militaire. Enfin, la France fut également présente sur cette ligne durant toute la période avec sa Compagnie Générale Transatlantique créée sous Napoléon III, qui connut un véritable essor au début du XXe siècle, en particulier après la Première Guerre mondiale. Mais ces entreprises étaient bien souvent prises dans des dynamiques bien plus larges. Elles se partageaient souvent le trafic en élaborant entre elles des accords. Et à partir de 1902, un gros conglomérat américain, fondé par John Pierpont Morgan, vient même regrouper des compagnies de plusieurs pavillons, américains, britanniques et même belges, l'International Mercantile Marine Company.
Quelles étaient la nature et l'ampleur des flux transatlantiques à cette époque ?
Durant toute la période de la ligne transatlantique, le flux de passagers fut extrêmement important. On retrouvait en effet à bord des paquebots plusieurs classes sociales divisées en différentes classes à bord du navire. La première regrouperait une élite fortunée, voyageant à la fois pour le plaisir et les affaires, tandis que la deuxième, de plus en plus développée à partir des années 1890, regroupait une classe moyenne, de plus en plus appelée à voyager. Enfin, la troisième classe regroupait dans des conditions souvent précaires de nombreux migrants désireux de s'installer aux États-Unis. Certains navires avaient une capacité de transport de plus de 2000 migrants, et à la veille de la Grande Guerre, les paquebots allemands les plus vastes étaient même dotés d'une quatrième classe, spécialement dédiée au transport de masse des plus pauvres migrants. En 1913, plus d'un million de personnes traversèrent ainsi l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis. Ce flux migratoire fut cependant totalement coupé dans les années 1920 par différentes lois mises en place par le pays d'accueil, désireux de limiter l'immigration, et les compagnies durent alors s'adapter. Cette période vit apparaître de nouvelles clientèles, comme la classe touriste, marquant l'émergence de nouvelles catégories sociales.
Quel était l'impact de ces compagnies en termes de prestige international ?
Les compagnies maritimes transatlantiques bénéficiaient d'un énorme prestige sur la scène internationale et étaient un outil non négligeable en termes de rayonnement. Guillaume II en Allemagne ou Mussolini en Italie surent ainsi les utiliser pour faire la promotion de leur régime à l'étranger, jusque dans les noms des navires. De même, la course à la taille et à la vitesse était extrêmement suivie par la presse et disposer du navire le plus gros et le plus rapide donnait temporairement un prestige indéniable au pavillon concerné. Pour un pays comme la France, les paquebots devenaient également un moyen d'exporter leur savoir-faire technique et artistique. En 1935, le paquebot Normandie fut ainsi utilisé pour exposer au monde de nombreuses innovations françaises en matière d'architecture navale et de propulsion, mais également en matière de décoration intérieure, et la lutte fut rude parmi les fournisseurs et décorateurs pour participer à la construction du navire et avoir ainsi une énorme publicité. Le navire devenait ainsi un véritable ambassadeur, sa traversée inaugurale était l'occasion de grandes festivités et même d'un voyage diplomatique.
Aujourd'hui, Europe in a Soundbite a été conçue à partir de la notice EHNE « Rôle des compagnies maritimes transatlantiques dans les relations euro-américaines » d'Antoine Reich et présentée par Virginie Chaillou-Atrousse. Retrouvez-nous sur www.ehne.fr. C'était Europe in a Soundbite.
You've been listening to Europe in a Soundbite. Listen in 7 days a week, mornings at 8:10 and afternoons at 4:45.
À retrouver tous les jours de la semaine à 8h40 et 16h45 sur Euradio.
On EU Radio.